donc, enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que peut-être toute la journée a été sous le signe de cette émotion quand même qu'on a quand on évoque Victor. Je crois que sa mort nous a frappés. Je crois qu'on a tous espéré aussi selon l'évolution de ses moments de rémission, que si il allait s'en tirer, qu'il allait être le plus fort, etc. Et puis un beau jour, toute la préparation du jury de thèse a été scandée par l'évolution de ses états intérieurs. Enfin, c'est quand même une situation très très particulière. Alors, d'autant plus particulière que c'était pas un thésard comme les autres pour nous tous, Victor. C'était un thésard, c'était quelqu'un dont on allait saluer d'une certaine manière une œuvre. Et pas n'importe quelle œuvre non plus. C'est-à-dire, c'est pas simplement une contribution clinique intéressante à un certain nombre de problèmes contemporains. On n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus fondamental et essentiel. Je pense qu'il y a des enjeux dans la politique de la psychanalyse, dans la pensée de Victor Guérin, et je me suis dit que c'était quand même un peu là-dessus que j'allais me centrer. Alors c'est vrai que c'était un ami, et alors Anne Brun me le reproche souvent, j'ai beaucoup d'exigences à l'égard de mes amis. Il y a des trucs que je pardonne pas. Quand j'ai des amis dont je suspecte des fautes éthiques importantes, je peux plus. Jamais j'ai connu quoi que ce soit de ce genre-là avec Victor Guérin. C'est un type qui était d'une rectitude éthique, et éthique professionnelle, mais aussi éthique relationnelle d'amitié, qui a été pour mon expérience tout au long de ma vie, sans ombre. Sans ombre, ce qui fait que non seulement il y avait mon amitié, ma libido en lien avec lui, mais il y avait en plus quelque chose qui a, pour mon avis, incommensurablement important, c'est-à-dire l'estime. C'est un type que j'ai profondément estimé, précisément, parce que je l'ai senti engagé, et ça me parle beaucoup, je l'ai senti engagé avec des convictions, à se battre pour un certain nombre de choses, avec courage. Parce que un certain nombre de choses qu'il avance, c'est loin d'aller de soi, et c'est loin d'aller de soi dans le monde psychanalytique actuel. Et je crois qu'il apporte des choses qui sont parfois, on va essayer de mettre l'accent dessus, des choses qui sont parfois un peu en porte-à-faux par rapport au discours dominant dans la psychanalyse. Alors ne serait-ce que déjà, ce parti pris de se fonder sur une exploration de la clinique des bébés. Enfin, je ne sais pas quel est votre degré d'information de ce qui est en vigueur dans le monde des sociétés de psychanalyse, mais enfin, la clinique des bébés, dans le monde de la psychanalyse officielle, pas considérée comme une clinique tout à fait fondamentale. On est sans arrêt en train de parler de l'infantile, mais c'est un infantile théorique. Hein. C'est un infantile complexe d'Édipe, papa, maman, la bonne et moi, le papa concret, la maman concrète, la bonne concrète, le moi concret, il n'en est pas tellement question. Il est surtout question d'une espèce de modèle, comme ça. Alors on a la rivalité, la différence des sexes, la différence des générations, de grandes catégories, mais comment ça a été incarné concrètement dans une vie, c'est pas des choses qui sont tellement prises en compte. Or, avec l'insistance mise par Victor, non seulement sur des bébés théoriques, mais sur des bébés concrets, réels, vous les avez vus, on les voit, ils sont là, en chair et en os, ils réagissent avec la manière dont ils sont faits, avec les interactions dont ils sont constitués avec leurs parents, eh bien, cette clinique-là, moi je l'appellerais une clinique directe, vous savez, au sens où on parle d'observation directe, mais observation directe, c'est un mauvaise presse. Ça fait observation cognitivo-comportementale, enfin, etc. Clinique directe, c'est une implication directe, mais alors, effectivement, quand on sort du bébé théorique, et Freud nous a laissé énormément de choses, mais il nous a quand même laissé quelques bébés théoriques. Et pas que Freud, Mélanie Klein aussi. Je n'ai pas tellement connaissance dans l'œuvre de Mélanie Klein d'une clinique directe des bébés. Le seul qu'il a, cette clinique directe des bébés, c'est Winnicott. 70 000 consultations de la première enfance. On dit un peu moins de conneries quand même sur les bébés quand on a 70 000 consultations de la première enfance derrière soi. Ceci étant, il y a toute la question des conséquences de ces, de tous ces apports, en quelque sorte, qu'a pu enseigner la clinique directe des bébés, il y a des conséquences tout à fait considérables. Et je dis bien, pas seulement sur la psychanalyse du bébé, pas seulement sur la psychanalyse de l'enfant, pas simplement sur la psychanalyse de l'adolescent, mais sur tout le champ psychanalytique. La référence au passé, au processus de développement et d'organisation du sujet humain est une référence qui est incontournable en psychanalyse. Et si notre représentation de ce qui se passe dans la première enfance est complètement galvaudée parce qu'elle ne surgit que de processus de reconstruction formés beaucoup de temps après pour essayer de reconstituer comment ça a dû se passer et qu'on n'est pas de plein pied dans comment ça se passe, comment ça émerge, qu'est-ce qu'il faut pour que ça se produise, etc. Si on n'est pas là-dedans, d'une certaine manière, je pense qu'on a une vue faussée. Donc ce que j'ai un peu choisi de faire, c'est de parler de Victor Guérin militant. Militant pour une psychanalyse 21e siècle. Militant pour une psychanalyse qui ne va pas simplement se cantonner à la sempiternelle répétition des modalités cure-types, mais qui va essayer de proposer un certain nombre de conceptions pour nous permettre, et pour permettre aux cliniciens du 21e siècle, de s'ajuster aux conditions concrètes de toutes les pratiques des cliniciens. Or, on sait bien actuellement que la pratique des cliniciens, c'est très rarement de travailler avec une belle organisation hystérique, bien foutue, une belle configuration oedipienne, facilement repérable. C'est pas à ça qu'on est confronté concrètement. C'est pas à ça qu'on est confronté quand on est en première ligne, sur les terrains de soins, dans les institutions. Ce à quoi on est confronté exige en quelque sorte que nous ayons toute une exploration qui aille bien au-delà de ce que le XXe siècle nous a légué en termes de conception de l'enfant. Alors, je dis XXe siècle, mais bien sûr, les dernières années avec Dan Stern, qui est un personnage important pour Victor Guérin, Dan Stern, Colwyn Trevarten et des tas d'autres ont pu apporter. Donc, ça me paraît être comme point important. Je voudrais le préciser. Personnellement, alors, avec Anne, on travaille, mais on travaillait aussi, j'ai beaucoup. Donc Victor a passé un certain nombre de jours chez moi, à Lyon. On a parlé comment on pouvait faire avec Victor. C'est-à-dire, on rentrait dans des discussions, et puis ça durait des heures, et puis on zappait d'un seul. On a parlé précisément de toute la question, des enjeux de la psychanalyse 21e siècle. De quoi est-ce qu'on a besoin maintenant pour notre clinique contemporaine? Ça ne veut pas dire en décalage complet par rapport à tout ce qui nous a été transmis. Mais de quoi est-ce qu'on a besoin d'autres pour continuer à s'ajuster? Alors, c'est quoi les cliniques concrètes auxquelles je pense? C'est d'abord toutes les pathologies du narcissisme qui ont un impact sur l'organisation identitaire du sujet. Pas simplement la blessure narcissique, la dépréciation narcissique, mais quand la menace identitaire est au rendez-vous de la pathologie du narcissisme. Or ça, on va le retrouver dans l'autisme, on va le retrouver dans les problématiques psychotiques, on va le trouver dans les problématiques borderline, mais on va aussi le trouver dans les problématiques chez les SDF, dans toutes les problématiques de la grande précarité. Et ça, je crois que je l'ai souligné dans ma postface, parce que c'est des points sur lesquels, je crois, que, sans lesquels on ne peut pas comprendre les enjeux du travail de Victor. Si on ne pense pas que Victor, il a grandi dans un pays qui a été marqué, Marcello, tu confirmes, qui a été marqué par la tyrannie, qui a été marqué par des situations de précarité sociale, qui a été marqué par une société qui n'était pas une société dans laquelle on se sentait en sécurité, mais au contraire, à tout moment, quelque chose pouvait vous tomber dessus, et vous pouviez être embastillé, etc. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de penser ce contexte social si on veut comprendre comment il a organisé quelque chose de sa pensée. C'est vrai de Victor, c'est vrai de Marcello, bien sûr, et c'est vrai de toute une série de nos collègues sud-américains, parce que la tyrannie, elle a été en Argentine, elle a été en Uruguay, elle a été en Brésil, et malheureusement, elle tend un peu à faire retour On va voir ce que va faire Bolsonaro par rapport à ça, mais enfin, on a quand même tout lieu de se méfier. Je pense que c'est important, parce que nous vivons, nous, dans une Europe relativement tranquillisée. Bon, il y a bien de temps en temps, le samedi, quelques tourbillons. Mais enfin, vous faites 800 mètres en dehors de la zone des Champs-Élysées, en gros, c'est calme. Hein. Moi, je me disais, mais comment ça va faire pour traverser Paris en taxi ? J'ai vu un gilet jaune sur un vélo, qui était un type très tranquille, qui se baladait. Bon, ben, je veux dire, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions que quand un pays tout entier vit dans une espèce de menace. Alors vous imaginez le travail des cliniciens sous cette menace. On a retravaillé là ces temps-ci avec une psychanalyste libanaise qui a fait un très très beau livre qui va bientôt être publié, qui s'appelle Dani Dadou, sur les conditions d'un travail psychanalytique quand l'environnement est en guerre. C'est quand même des conditions. C'est là où on peut s'apercevoir que le tout fantasme, le tout représentation subjective du sujet, etc., bah, ça fait un peu rire. Ça, tout va bien quand les conditions de sécurité environnement sont optimum. C'était pas le cas. Et alors, par ailleurs, il y a aussi les origines de Victor. Et ça, je pense qu'il n'a jamais renié toute sa trajectoire personnelle. Victor n'est pas quelqu'un qui vient d'une grande famille d'Uruguay avec de l'argent à foison, etc. Bah, il a construit petit à petit son travail, mais il l'a construit à la force du poignet en partant de situations qui étaient des situations modestes socialement. Je crois que ces choses-là, c'est important de les dire. Je pense que s'il y a du militantisme aussi dans la position de Victor, elle est aussi liée à ça. C'est-à-dire, c'est une manière de dire fondamentalement, ça suffit de mettre entre parenthèses tout le contexte social. C'est pas possible. Ça suffit de mettre, et derrière le contexte social, si on veut effectivement être encore plus précis, ça suffit de mettre entre parenthèses tout le contexte environnemental. Un bébé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas indépendamment d'un environnement. Mais un être humain, en général, ça n'existe pas indépendamment d'un environnement. Si on peut continuer de penser comme ça, qu'on peut continuer de faire abstraction de tout pour isoler un sujet et le penser dans la rectitude de ses processus intrasubjectifs, sans tenir compte, et on va avoir l'autre mot, des conditions intersubjectives de la rencontre, il y a quelque chose qui va effectivement se casser la figure en cours de route. Alors ça, je pense que ça, c'est quand même tout à fait important. Il y aurait à travailler sur, et je pense que les cliniciens du 21e siècle ne vont pas pouvoir faire l'économie de s'atteler aux situations de grande précarité sociale. On ne va pas pouvoir faire autrement. Pourquoi ? Ben parce que l'immigration, elle n'est pas prête de s'arrêter, parce qu'on va rencontrer, alors ça s'appelle maintenant, les mineurs non accompagnés, des gamins qui ont traversé les mers, etc., qui débarquent. Comment notre pays les accueille ? Et il ne suffit pas de dire, on va leur trouver des lieux pour se coucher, etc., et pour dormir. Non, c'est pas là que ça va se jouer aussi là. C'est nécessaire. C'est compliqué de faire de la psychanalyse sous les ponts, même si les gens sont allongés par terre. Hein. C'est un peu compliqué. Bon. Mais c'est pas simplement... C'est qu'il faut effectivement prendre en compte qu'est-ce qu'ils ont traversé, à quoi ils ont été confrontés. Et cette situation, il y a tout un manque de théorisation de la problématique de l'immigration, qui est quand même... C'est travaillé comme ça. Alors, il y a eu la thèse de Martine Lucier. Et alors ça, c'est une thèse intéressante, parce qu'elle est partie du modèle de dire « Ah, mais peut-être, l'exil, c'est comme le deuil. » Et puis elle a travaillé sur 50 conjonctures d'exil, et elle s'est aperçue que l'exil, c'était pas comme le deuil. C'est une problématique très spécifique. Or, celle-là, il va falloir s'y atteler, il va falloir les comprendre. Mais la comprendre, c'est aussi, c'est effectivement, poser cette question. Alors, bon, je suis parti, là, mi-fièvre, mi-autre chose. En tout cas, ça, c'est un premier point. Et j'insiste sur l'importance de ce que va nous apporter la clinique directe. Parce que là aussi, dans le monde de la psychanalyse, moi j'ai rien contre, parce que je trouve que c'est un concept qui est tout à fait important. Mais on a le sacro-saint après coup. Et tout est repris après coup. Oui, c'est pas si vrai que ça, d'abord. Hein. Il n'y a qu'à lire La crainte de l'effondrement de Winnicott pour s'apercevoir que c'est pas vrai. Il y a des choses où c'est l'avant-coup qui compte parce qu'il n'y a jamais eu d'après-coup. Et où parfois, le seul après-coup qui va avoir lieu, il va avoir lieu concrètement dans la clinique avec un clinicien averti qui va rendre possible qu'un après-coup puisse avoir lieu. Il faut se préoccuper de l'avant-coup. C'est bien l'après-coup. Mais si on a une représentation complètement tordue de l'avant-coup, je me demande comment on peut arriver à penser correctement l'après-coup. Or, je pense que sans des travaux comme ceux de Victor, comme ceux de Sylvain et ceux de tous ceux qui se sont penchés, Alberto, sur la clinique de la première enfance, sans ces travaux-là, la représentation qu'on peut se faire des conditions de la subjectivité d'un bébé est une représentation extraordinairement idéologique, extraordinairement loin des conditions concrètes qui rendent possible qu'effectivement un bébé puisse se subjectiver ou échoue à se subjectiver. Donc ça me paraît être quand même quelque chose qui est tout à fait important. Et c'est un plaidoyer pour dire la clinique tant décriée, directe, de la première enfance, elle est incontournable à l'heure actuelle pour l'évolution de la psychanalyse. Et ça c'est un... Je crois que là, toute sa vie, Victor a milité pour cette position. Je pense que ça, c'est des discussions que j'ai beaucoup eues avec lui. On est complètement d'accord là-dessus. Ça suffit de tabler sur des reconstructions complètement farfelues de la première enfance, ou farfelues, ou pas trop farfelues, mais approximatives de la première enfance. Nous avons besoin d'avoir des modèles de compréhension de ce qui se passe chez les bébés qui sont beaucoup plus affinés que ce qu'on a. Et alors on a un certain nombre, heureusement, on a Selma Freiberg, on a Colwyn Treverton, on a un certain nombre de gens qui ont apporté des choses considérables. Moi, je mets effectivement Victor au même niveau qu'une Selma Freiberg qui a apporté des choses absolument essentielles dans les années 80, c'est 83, si ma mémoire est bonne, Selma Freiberg. Donc ça, c'est une chose qui est tout à fait importante. Alors vous voyez, c'est pas simplement la fièvre, mais je m'échauffe parce que véritablement, j'ai une conviction profonde à ce niveau-là. Et j'ai une conviction suivant laquelle, si nous voulons ajuster la psychanalyse aux conditions du 21e siècle, il est impératif que ceci soit de plus en plus pris en compte. Ça, c'est un premier point. Alors bien sûr, en même temps, ça veut dire aussi non seulement une clinique de la première enfance, mais qu'est-ce que c'est qu'une clinique des états précoces ? Qu'est-ce que c'est qu'une clinique des traumas précoces ? Comment ça affecte un sujet, un trauma apparaissant dans les deux premières années ? Qu'est-ce qui se passe lorsque, effectivement, les conditions, en quelque sorte, de la subjectivation ne sont pas suffisamment bien remplies ? Quel type de fragilité narcissique ça produit ? Quel type de retrait en direction de processus, de désubjectivation, de clivage, etc., ça va produire ? Ça, c'était le premier point. Premier point, plaidoyer, ça s'appelait plaidoyer pour une clinique de la première enfance. Et je dis bien une clinique de la première enfance. Alors, je pense que cette clinique de la première enfance, dès qu'on a adopté une rectitude de position clinique, rien n'empêche de travailler avec des gens qui ne sont pas des cliniciens nécessairement. Je veux dire, les travaux de Philippe Rochat sur le cerveau du bébé, les travaux de Colwyn Treverton, les travaux de Dan Stern, ils ont des choses à nous apprendre, à condition que nous ne perdions pas de vue notre approche clinique. C'est-à-dire que nous réorganisions leurs expériences pour penser un peu mieux la clinique. Moyennant quoi, moi je ne suis absolument pas pour la guerre contre les psychologues du développement en disant non mais ça c'est en dehors de notre champ. Je crois que ce n'est pas vrai. On travaille tous sur le bébé, et ben, profitons. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir notre épistémologie propre. Ça ne nous empêche pas de réorganiser éventuellement ce qu'ils disent en fonction de cette épistémologie propre. Je me souviens d'une discussion avec Philippe Rochat lors d'un congrès d'Avignon. Alors Rochat, c'est un monsieur qui a des recherches conséquentes sur la première enfance. Et alors, on était là, il me disait, mais C'est quand même étrange, vous, les psychanalystes, quand vous parlez des bébés, vous êtes devant des bébés qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Alors, on a réfléchi au fait que ça paraissait pas être les mêmes bébés. Et bien évidemment, pour pouvoir faire ces observations de bébés, et ces observations de bébés, ça montre que les bébés sont d'emblée présents, que les bébés sont d'emblée en interaction avec l'environnement. Mais il faut pas que le bébé ait faim. Il faut pas qu'il soit mal. Il faut pas qu'il soit dans un environnement insécurisant. Parce que s'il a faim, s'il est sale, s'il y a une communication avec son environnement premier qui est complètement déréglée, eh ben, on ne va jamais pouvoir observer le bébé de l'expérimentation de Philippe Rochat. Un bébé, ça n'existe pas, non seulement parce qu'il y a toujours un environnement, mais un bébé, ça n'existe pas parce que ce n'est pas une unité. Hein, c'est ce que Myriam David avait introduit en proposant l'idée d'une nébuleuse subjective. Mais alors, du coup, ça fait apparaître d'autres problèmes qu'on voit tout à fait bien traités, effectivement, chez Philippe. C'est qu'à partir du moment où un bébé, c'est une nébuleuse subjective, il y a une problématique qui est tout à fait nouvelle qui apparaît. Vous avez une problématique classique, c'est séparation, individuation, l'absence. Là, on est devant une problématique qui est tout à fait nouvelle, c'est comment on se rassemble. Si je vis une nébuleuse, comment je fais pour faire tenir ensemble tous les éléments de ma nébuleuse? Et là, on voit qu'on a de tout nouveaux problèmes. Or, ces tout nouveaux problèmes, eh bien, ma foi, la clinique contemporaine, alors c'est les personnalités en archipel, les personnalités en îlot, c'est tout ce qui a pu être décrit sur des formes de pathologie du narcissisme qu'on va aller chercher comme ça. Et la question du rythme, on va y revenir, elle est essentielle pour penser ces problèmes-là. Alors, donc, premier point, clinique de la première enfance, incontournable, et il faut tous s'y mettre. Et si on ne peut pas s'y mettre en expérience directe, alors il faut se tenir au courant de toutes les avancées de ce côté-là. Le livre de Victor est une petite merveille à ce niveau. Il y en a un certain nombre. Il y a les milieux un bébé, il y a un certain nombre de choses qui sont sorties. Il faut les lire. Il faut les lire, parce qu'on apprend énormément de choses comme ça, quand même, sur comment ça fonctionne un bébé. Et j'aime autant vous dire que ces choses-là, à un moment ou à un autre, ça va être extraordinairement important et utile dans notre pratique clinique, même si on ne s'intéresse pas du tout au bébé, et même si on travaille avec des adultes. Parce que les adultes avec lesquels on travaille, eh ben, ils ont quand même été bébés à un moment donné, et ils ont des séquelles, ils ont des traces de ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, deuxième élément, qui est tout aussi fondamental, clinique de la première enfance, très bien. Deuxième élément, la question de l'intersubjectivité. Entre soi et soi, il y a l'objet. Mais il n'y a pas un objet, il y a un objet qui est un autre sujet. C'est-à-dire, il a ses particularités propres. C'est ça un sujet. Un objet, c'est l'objet de ma pulsion. Bon, l'objet de ma pulsion, j'ai faim. L'objet de ma pulsion, c'est quelque chose que je peux manger. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. C'est-à-dire, le sein de la mère, il est attaché à une mère. Et la mère, elle a ses émotions, elle a ses affects, elle a ses réactions. Ça lui fait mal, elle retire son sein. Elle sourit, elle sourit pas, elle est présente, elle tient d'une certaine manière le bébé. Vous voyez bien qu'on pensait que l'objet, c'est le sein. C'est véritablement d'une réduction de l'humain qui est tout à fait considérable. Un bébé, il n'est pas en rapport avec un sein, il est en rapport avec un autre sujet. C'est compliqué d'être en rapport avec un autre sujet. C'est compliqué d'être sujet en rapport avec un autre sujet. Mais là, fondamentalement, la problématique intersubjective, elle est là. Et comment a-t-on pu penser pendant des années essayer de penser un sujet qu'on aurait isolé comme ça de toute l'influence? Ben, vous prenez le début de Psychologie des masses et analyse du moi de Freud, et vous apercevez que Freud dit « Ah, mais attendez, bon, on a essayé quand même de simplifier un petit peu les choses, mais la psychologie est d'emblée une psychologie sociale. » Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de penser un sujet indépendamment de l'autre sujet. Alors ça, c'est au cœur de la problématique intersubjective. Et ça, c'est quand même quelque chose, vraiment, ça fait partie de l'âme même du travail de Victor. C'est un des points sur lesquels il n'a pas cessé de concentrer sa vie. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, ben alors qu'est-ce qui se passait? Entre moi et moi, il y a l'autre. Il y a le reflet de l'autre. Je peux pas. Vous voyez l'importance quand même dans la problématique narcissique. Toute une pente des problématiques narcissiques, ça consiste à essayer de penser le sujet dans son lien à lui-même. Est-ce qu'il s'investit? Est-ce qu'il s'investit pas? Est-ce qu'il s'aime? Est-ce qu'il s'aime pas? Est-ce qu'il est masochiste? Etc. Mais comment est-ce qu'on peut penser ça indépendamment de l'histoire de la manière dont le sujet a été regardé, dont il a été entendu, dont il a été pensé? Comment est-ce qu'on peut arriver à penser, à imaginer qu'on peut penser un sujet indépendamment de l'ensemble? Alors ça, Anne évoquait tout à l'heure Pierre Rolagnier, bah, c'est très très important chez Pierre Rolagnier, c'est très important chez Anzieux, mais alors véritablement, c'est absolument capital dans toute la pensée de Victor. Alors comment est-ce que je peux me sentir être sujet compte tenu du fait que je suis en lien avec un objet qui est un autre sujet? Et là, la réponse de Victor, elle est décisive. Ce qui me fait me sentir sujet, c'est l'adéquation des rythmes. Si on me nourrit à mauvais rythme, je ne me sens pas sujet. Si je ne suis pas porté à bon rythme, je ne me sens pas sujet. Ce qui va me permettre de me sentir être un peu aux commandes des choses, c'est effectivement que mon rythme soit respecté par l'autre. Et ça, c'est la question absolument déterminante. Alors, bien sûr, cette question déterminante, elle s'ouvre sur une autre question que Victor pouvait travailler plus. Mais bon, je pense que s'il avait eu le temps de vivre encore quelques années, il aurait travaillé ça, parce que c'est des choses qu'on avait abordées et qui étaient bien dans son orientation. La question est la suivante, c'est qu'est-ce qui fait qu'un environnement synchronise les rythmes? Qu'est-ce qui rend possible de synchroniser les rythmes? Si c'est par le rythme que je me sens sujet, c'est si c'est à partir de ça que je commence à me sentir être, alors la question de savoir quelles sont les conditions pour qu'un environnement me respecte dans mon rythme, quelles sont ces conditions-là? Ce sont des questions qui sont tout à fait essentielles. Alors, bien sûr, ces conditions-là, elles vont ouvrir sur un champ de problématiques tout à fait important. C'est-à-dire, imaginons une mère qui, pour des raisons multiples, n'est pas disponible. Est-ce qu'il peut y avoir un ajustement, une adéquation des rythmes avec un objet qui n'est pas disponible, avec un objet qui n'est pas empathique, avec un objet qui n'a pas une sensibilité? Parce que ça, le respect du rythme du bébé, ça passe par une extraordinaire capacité d'empathie avec lui, de le sentir dans son rythme. Et tous ceux qui ont pu travailler parmi vous avec les bébés savent parfaitement que on a à l'intérieur de nous, quand on est suffisamment disponible, une espèce de calculateur interne qui ajuste les rythmes comme ça en permanence. Et puis quand le calculateur interne est perturbé par trop de conflictualité, par trop de difficultés, par une histoire maternelle, paternelle, familiale qui a été tellement marquée par un certain nombre de carences qu'il n'y a plus cette possibilité. Là, je vous renvoie à tous les travaux de Selma Freiberg là-dessus, qui montrent comment les jeunes mères, elles travaillent avec le lumpen prolétariat du Michigan. Les jeunes mères, qui sont des jeunes mères, qui ont des gamins, elles ont 14, 15, 16, 17 ans. Effectivement, c'est très compliqué pour les bébés. C'est très compliqué pour les bébés, surtout que ce sont des mères qui sont très coupées d'elles-mêmes, très peu en contact avec leur monde émotionnel. C'est par notre boussole émotionnelle qu'on s'ajuste effectivement à l'autre. Hein? Alors là, on est extrêmement loin d'un cognitivisme abstrait, on est extrêmement loin d'un système de pensée 0, 1, psyché, computer, etc. C'est pas du tout là que ça fonctionne. Toutes les neurosciences sont en train de venir nous apporter un extraordinaire soutien à ce niveau-là. Le dernier bouquin d'Antonio Damasio, « L'étrange ordre du monde », c'est un plaidoyer pour dire « la boussole fondamentale de l'humain, c'est l'affect, c'est l'émotion ». Mais l'affect, l'émotion, ben ça dépend de la disponibilité, ça dépend d'un mode de présence. Ça ouvre, vous voyez ça, ce qu'on a très fortement développé dans notre pensée psychanalytique. Et reprenez, c'est toute la pensée du négatif. L'absence, la séparation, la castration, on a là pléthore de travaux là-dessus. Avec Victor, avec Stern, avec un certain nombre d'autres, c'est la chorégraphie de la présence qui apparaît. C'est-à-dire qu'on a les linéaments d'une métapsychologie de la présence. Dites, vous êtes des cliniciens, vous travaillez dans l'absence ou dans la présence ? La plupart du temps, alors bien sûr vous allez me dire, mais si, moi je fais de la psychanalyse, les patients sont allongés, ils ne me voient pas, donc c'est comme si j'étais absent. Ouais. Enfin, 95% actuellement des cliniques concrètes, c'est des cliniques qui sont en face à face, où l'autre est là, ou est en côte à côte, etc. Si on n'a pas une métapsychologie de la présence à notre disposition, mais comment est-ce qu'on va se débrouiller ? Alors on peut faire des sophistications, on peut dire, non mais je suis présent, mais j'ai une zone d'absence à l'intérieur de moi. Non, mais on peut faire des tas. On peut tout en retomber sur ses pattes. Mais ça serait peut-être un peu plus simple de faire une véritable métapsychologie de la présence. Or, ça, on l'a. On l'a chez Victor. Alors, elle n'est pas complètement dégagée, mais il n'empêche qu'elle est là. Toute l'idée de la chorégraphie, de la musique, de ce que la préface de Bernard Golsch met bien en évidence. Toutes ces développements-là, ça va dans le sens du développement d'une métapsychologie de la présence. Et la métapsychologie de la présence, ça confronte à quelque chose qui est important. Si l'objet est absent, ce sur quoi on va être surtout attentif, c'est à l'absence de l'objet. Mais si l'objet est présent, ce sur quoi on va devoir être attentif, c'est comment il est quand il est présent. Comment il est ? Il est souriant, il n'est pas souriant, il est accueillant, il n'est pas accueillant. Comment il me porte ? Comment il me prend ? Comment il me touche ? Comment il me regarde ? Comment il ne me regarde pas ? Comment il se détourne à un moment donné ? C'est-à-dire quelque chose qui correspond très précisément à tout ce qui va faire le lit des possibilités d'élaboration de l'absence. Parce que l'absence, elle commence à s'élaborer dans la présence. Et en particulier, alors avec ce que Winnicott a mis en évidence, mais que là aussi on a quelque chose qui est très présent chez Victor, c'est comment effectivement, comment être seul en présence de l'autre. Comment creuser un espace de solitude malgré la présence. Est-ce que le mode de présence de l'autre me laisse un espace de solitude, ou est-ce que le mode de présence de l'autre est soit du côté d'une menace d'abandon, soit du côté d'une menace d'intrusion, sans jamais que je puisse être tranquillement en présence de l'autre, avec la construction, mon espace interne. Comment est-ce que je peux être sujet si je n'ai pas cet espace interne pour me sentir être ? Vous comprenez tout ça ? Combien c'est important comme ça ? Et vous comprenez pourquoi la référence au concept d'intersubjectivité est une référence actuellement totalement incontournable. Alors on est devant une espèce de paradoxe. Parce qu'on a beaucoup travaillé la problématique du compte transfert. Et avec les travaux des Kleiniens, Paula Heyman et des post-Kleiniens, on sait bien qu'on ne peut pas penser véritablement le transfert sans le compte transfert. C'est-à-dire qu'au fond, ça c'est une théorie intersubjective de la cure. Mais cette théorie-là, et ça sera mon troisième point, elle ne s'accompagne pas du tout de l'idée que... Bon, je vais vous donner un petit exemple. Vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Je me retrouve en Grèce. Alors en Grèce, c'est très compliqué parce qu'il y a eu une diaspora grecque. Et du coup, les Grecs, ils sont venus se former en France, en Allemagne, en Angleterre, en Amérique. Quand ils sont revenus ensemble, ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas travailler ensemble. Alors ils ont inventé le combat de gladiateurs. C'est-à-dire ils font venir un chef, une tête d'affiche anglophone, une tête d'affiche germanophone, quelqu'un d'Amérique du Sud, et puis ils les mettent au milieu et ils se mettent tout autour et ils comptent les points. Alors bon, moi je me retrouve invité comme ça et je présente une cure où il y a une problématique d'une patiente en lien avec sa mère, avec une problématique incestueuse, etc. Bon, je présente ça. Et alors, il y a une scène très très particulière, c'est que la gamine est dans le lit de sa mère, le père travaille dans un restaurant, il est absent, et la gamine est en train d'essayer d'explorer un peu le corps de sa mère. La mère dort. On entend la clé du père dans la porte. Immédiatement, la mère est réveillée et elle fiche la fille dehors. Est-ce que la mère dormait ? Peu probable. Alors, je travaille cette séquence-là. Je la travaille de manière un peu sophistiquée. Je peux être pas mauvais comme analyste, donc je fais des trucs sur le chemin du père, à travers le corps de la mère, enfin bref, je fais un machin qui est pas mal. L'anglais me tombe dessus en me disant, bon, enfin, tout ça, c'est ce qu'elle raconte. C'est ce qu'elle raconte. C'est ses fantasmes, c'est sa projection sur l'objet. Imparable. Bah oui, c'est ce qu'elle raconte. J'étais pas là, et personne n'était là pour dire... Mais moi, j'ai tendance à la croire. Bon. Le problème, c'est qu'après, c'est son tour. Et là, j'ai ma revanche. Alors, son tour, qu'est-ce que... Non, mais je vois, on voit très bien l'impact, si vous voulez, d'un certain nombre. C'est un monsieur qui n'acceptera jamais qu'on dise qu'un enfant se développe indépendamment des conditions de son environnement. Bon, très bien. Il présente un cas d'une reprise d'analyse d'un patient qui a fait déjà une première tranche, très très bien réussie, etc. Le problème, c'est que ce monsieur est devenu père, c'est que, étant devenu père, il a un fils et il est envahi de mouvements extraordinairement meurtriers à l'égard de son enfant. Et il vient faire une demande de reprise de cure. Alors, ouais, je peux être un peu salaud quand même, hein, de temps en temps. Mais là, je m'en suis donné à cœur joie. Je lui dis, ah, ça c'est très très intéressant. Imaginons maintenant que 20 ans plus tard, vous voyez arriver le fils. Et qui vous dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'impression, quand je suis avec mon père, qu'il a des mouvements meurtriers à mon égard. Est-ce que vous allez considérer que ce sont uniquement ses projections ? Hein ? Voilà le problème. Je considère qu'effectivement, les mouvements du sujet à l'égard de son environnement, c'est des projections. Le problème, c'est qu'il y a aussi les projections de l'environnement à l'égard du sujet. Mais ça, on ne les traite pas. Donc, vous voyez, la prise en compte de l'intersubjectivité, c'est fondamentalement la prise en compte aussi de ce qui peut venir de la part de l'objet. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait essentiel et fondamental, je pense, pour Victor. Et je terminerai là-dessus, parce qu'il faut bien faire une fin. Le nombre, actuellement, personne ne vous dira « Non, non, mais les conditions de l'environnement, c'est quelque chose qui est qu'il ne faut pas prendre en compte. Nous travaillons sur l'intrasubjectif, l'intrapsychique, etc. » Très bien. Dernier congrès de la SPP, 3 séances, vous n'y pensez pas. Le discours de démarrage de Gilbert Gatkin, tout à fait passionnant et intéressant, c'est de montrer à quel point, effectivement, maintenant, les conditions sociales ont changé, le rapport au temps a changé, les tablettes ont changé, etc. Bon, pour dire qu'effectivement, maintenant, 3 séances, c'est difficile, c'est compliqué. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus. Et même les plus... de l'identification projective plus ou moins généralisée, ils sont d'accord là-dessus. Le problème, c'est que quand ils sont en position de clinique, ils oublient complètement ce avec quoi ils étaient d'accord. Et on continue. Alors, bon, moi, si vous voulez, j'ai beaucoup d'expérience maintenant de la supervision des cas impossibles qui sont en échec, etc. Tout le temps, c'est des problématiques narcissiques. Eh bien, tout le temps, ce que je vois, qui met les cures en échec, c'est des analystes qui cherchent à penser la problématique du sujet, alors qu'ils sont totalement d'accord sur le fait qu'il y a eu des tas d'événements dans la vie du sujet qui ont été très compliqués, Jamais ils n'en tiennent compte concrètement dans la dynamique d'une séance. Et alors ça, c'est le dernier point sur lequel je voulais intervenir et où je vous appelle tous, en quelque sorte, à réfléchir là-dessus. Comment est-ce qu'on peut effectivement considérer qu'on est à l'écoute d'un sujet et de ses processus sans tenir compte de la manière dont l'environnement a réagi à ces processus ? Comment est-ce que je peux tenir compte de l'élan brisé d'une patiente anorexique sans considérer comment son environnement a cassé ses élans ? Est-ce que je peux effectivement penser que... Alors, le problème du narcissisme et le problème des problématiques narcissiques, c'est que, d'une manière ou d'une autre, le narcissisme tend à effacer les traces de sa propre construction. Hein. l'ombre de l'objet est tombée sur le moi, et le moi a assimilé l'ombre de l'objet. Ce qui fait qu'à un moment donné, le moi ne sait plus que c'est l'ombre de l'objet. Il pense que puisque c'est dedans, c'est dans son sac, c'est que c'est lui. Donc, il faut avoir une déconstruction du narcissisme, de la théorie du moi, pour essayer de rétablir la place de l'objet. Ça, c'est l'enjeu du travail sur l'intersubjectivité. C'est l'enjeu concret de ce que des travaux comme ceux de Victor apportent à la psychanalyse contemporaine. Si vous voulez, ce que j'essaye de vous dire, c'est j'aimerais qu'après la lecture du bouquin de Victor, plus aucun d'entre vous ne continue de raisonner comme s'il n'y avait pas eu l'objet et comme si on pouvait penser un sujet indépendamment de l'objet. Et je dis, pas simplement les bébés, pas simplement les petits-enfants, pas simplement les enfants en période de latence, pas simplement les adolescents, mais tout le monde. Parce que la problématique, eh bien, elle n'est pas localisée comme ça. Même si elle est archaïque, c'est pas parce qu'elle est archaïque qu'elle ne s'est jouée que dans les états précoces. Alors voilà, ça c'était le troisième élément militant que je voulais vous proposer, du militantisme de Victor, c'est-à-dire, il nous faut penser, quand on écoute un sujet, à quelles conditions d'environnement il a été confronté. Quelle était l'ambiance familiale? Comment il nous raconte cette ambiance familiale? Comment il nous raconte là, les réponses de son environnement? Comment il nous traite, nous, comme il a été traité? Comment on ne peut pas penser quelque chose du processus transférentiel simplement sur le modèle de « Oh, ils se comportent à mon égard comme ils sont comportés à l'égard de sa mère », mais se dire comment ils se comportent à notre égard de la manière dont on s'est comporté à son égard, c'est-à-dire suivant non pas des processus de déplacement, mais des processus de retournement. Hein. C'est-à-dire déconstruire la théorie narcissique du narcissisme. Vous avez été sympa, vous m'avez bien écouté, du coup j'ai pas toussé. Merci.